Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone ce matin pour une autre édition de Société, une émission assez chargée. Aujourd'hui, nous retrouvons les habitués de notre panel politique ici en studio et à distance pour parler de l'actualité récente, et il y en a beaucoup. D'abord, bien sûr, cette réforme de l'éducation adoptée sous Bayon par l'Assemblée nationale, également les péripéties entourant la subvention à la commission scolaire English Montreal, dans le but là, de contester la loi 21. Et puis, nous allons un peu plus tard discuter avec Pierre Moutarde. Il est sociologue. Il a écrit un livre qui s'intitule « Les impasses de la rectitude politique ». C'est un point de vue de gauche d'un militant, disons-le directement, là, de Québec solidaire. Donc, on verra ce que dit M. Moutarde là-dessus. Puis Mathieu Bock-Côté réagira juste après, puisque on le sait, le thème de la rectitude politique lui est cher. Il publiait également là-dessus un peu plus tôt. Son livre s'appelait L'Empire du politiquement correct. Et j'ai à mes côtés en studio notre libéral en résidence qui a réussi à pelleter pour se rendre. Attends, bonjour William Corbatley.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Et puis, je vous reviens là, dans un instant. Commençons tout de suite avec Frédéric Bérard, puisque lui aussi est probablement à côté de son skidou. Bonjour, Frédéric Bérard.
C'est à peu près la seule chose qui fonctionne chez Bombardier, donc il faut les encourager.
Exact. Oui, mais ça a été vendu en 2003, je vous l'annonce. À la famille Bombardier, d'ailleurs, ce qui est assez curieux, et c'est une division très profitable, me dit-on.
Bon, chapeau pour le fleuron.
Ben voilà, c'est ça. Alors, en direct de votre snowmobile, Frédéric Bérard, expliquez-nous donc ce qui s'est produit cette semaine-là autour de la commission scolaire English Montreal et de ces montants d'argent qui lui avait été octroyé par l'intermédiaire d'un programme indépendant, dit-on, un programme fédéral par ailleurs, ce qui a fait réagir le candidat à la chefferie du Parti québécois, Frédéric Bastien, qui a aussitôt porté plainte en disant que, je résume à gros traits, mais vous allez m'aider à mieux expliquer ça à nos auditeurs, mais que ça ne devait pas marcher comme ça. Il ne faut pas que l'argent du fédéral se retrouve dans une municipalité sans passer par une entente avec le palier québécois dans ce cas-ci. Qui avait raison, qui avait tort? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'abord, avant d'aller dans l'opinion, allons sur les faits, là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on comprenne mieux ce qui s'est produit?
Ouais. C'est une longue histoire, probablement. Cela dit, ce qu'a fait Bastien, c'est probablement la seule chose qui mérite réflexion. Donc, avant de tomber dans l'opinion, je vais parler de ce qu'a fait Bastien, c'est-à-dire porter plainte en disant la commission scolaire anglo de Montréal ne peut pas prendre cet argent du fédéral pour contester, en fait, constitutionnellement, une loi québécoise. Une fois qu'on a dit ça, la question de Bastien est intéressante. C'est est-ce qu'une entité comme une commission scolaire...
Parent municipal, si on veut.
Oui, exactement. Est-ce que la commission avait ce pouvoir-là ou non? Juridiquement parlant, la question se pose parce que, de mémoire, on interdit aux commissions donc d'utiliser l'argent d'une entité fédérale. Et là, la question, c'est la suivante. Est-ce que le fonds en question est réellement une entité fédérale au sens de gouvernement fédéral ou pas? Il y en a qui ont l'air de dire, je ne l'ai pas étudié dans le détail, donc je ne vous conterai pas d'histoire.
Tout le débat est là. Hein? Il y en a qui disent, ben voyons donc, ben, c'est un programme indépendant.
Juridiquement, oui. Et je vais clore le juridique ça en disant, ben, ça dépendra évidemment de l'indépendance du fonds en question. Moi, ça m'a tout l'air que ce fonds-là est parfaitement indépendant. Il est même géré par l'Université d'Ottawa, qui, on le sait bien, n'est pas une entité fédérale. Donc, est-ce que dans les faits, ce fonds-là est une entité fédérale? C'est pas clair. Est-ce que dans l'esprit, c'est pas clair non plus. Néanmoins, je pense que la question de Bastien se pose, mais où ça devient vraiment problématique, Nick Payne, c'est voir les sorties parfaitement démagogiques de François Legault, Jolin Barrette et Yves-François Blanchet.
Alors, M. Legault qui dit « Justin Trudeau insulte le Québec », Yves-François Blanchet, évidemment, qui martèle le propos de Bastien, là, en disant « Le fédéral n'a pas à financer les contestations des lois québécoises ». Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ça.
Ben, Blanchet est allé plus loin que ça. Là, c'était la faute de Trudeau. Et Blanchet est allé demander à Trudeau d'empêcher finalement que le fonds appuie justement financièrement la contestation. Puis là, on s'entend que c'était 125 000 piastres, si je ne me trompe pas, ce qui est essentiellement une poignée de change là, pour ce genre de contestation-là.
Alors, il y avait 125 000 pour contester la loi 21 et 125 000 pour contester le transfert d'écoles anglophones aux commissions scolaires francophones, si j'ai bien compris. De toute façon, en tout cas, la commission scolaire a finalement renoncé à ces sommes, hein, il faut le dire.
Mais permettez-moi de terminer là-dessus, Nick, en disant... Blanchet, il va falloir à un moment donné que quelqu'un y explique ça sert à quoi l'indépendance. Pour un gars qui en parle ou qui essaie d'en parler à journée longue, là, va falloir y expliquer un peu le concept. Ce gars-là souhaitait même que Trudeau intervienne pendant la campagne électorale pour faire auprès de CBC, pour faire congédier une commentatrice qui avait dit que la loi 21 était discriminatoire. Alors, n'importe qui a étudié 3 secondes en droit sait que cette loi-là est discriminatoire. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que la discrimination se rachète ou non dans le cadre d'une société libre et démocratique. Puis ça, on ne le saura jamais parce que le gouvernement Legault a forcé l'emploi de la disposition dérogatoire. Mais là, Blanchet demande donc à une société d'État qui, par définition, est indépendante du gouvernement fédéral, et demande à un premier ministre d'intervenir dans la gestion des activités courantes d'un organisme médiatique pour congédier une commentatrice parce que celle-ci aurait tenu des propos qui ne feraient pas son affaire. Mais c'est qui ce bozo de la première espèce qui peut penser une seconde qu'un premier ministre va aller dire à Radio-Canada, à CBC ou son équivalent, faites-ci puis faites pas ça?
Ben c'est peut-être celui qui pense que c'est aussi Justin Trudeau qui a donné un coup de téléphone à l'organisme en question pour le presser de financer la commission scolaire.
Alors, si c'est le cas, Nick, eh bien, Yves-François Blanchet est un parfait imbécile. Ah non, c'est pas vrai, la perfection n'est pas de ce monde, donc je retire le parfait. C'est un imbécile.
Vous faites un capitaine ad hoc.
Non, mais parce qu'à un moment donné, ça suffit, la démagogie. Moi, j'ai déjà parlé une fois ou deux à Blanchet, et à chaque fois, il revient avec des sottises du genre. Les tribunaux sont là pour faire respecter la volonté du Parlement. Non, mais est-ce qu'il a déjà ouvert un livre, ce gars-là? Est-ce qu'il sait qui est Montesquieu, John Locke? Est-ce qu'il sait ce qu'est la liberté de presse? Que c'est vraiment trop compliqué de comprendre qu'il y a une espèce de mur étroit entre ces organismes-là et le pouvoir fédéral. Je veux dire, il me semble que c'est facile à comprendre. Un étudiant au cégep comprend ça après son premier cours de sciences politiques.
Alors, c'est très clair.
Il n'a aucune idée.
C'est très clair, mais dites-moi maintenant, alors si, du reste, revenons à la commission scolaire English Montreal. Alors, vous avez trouvé les réactions démagogiques, celle de François Blanchet, celle de François Legault aussi, là, qui demandait pas nécessairement les mêmes choses que M. Blanchet, mais qui allait en tout cas dans le sens de l'accréditation là, d'un geste délibéré ou en tout cas d'une ingérence du gouvernement fédéral dans ce programme-là. Est-ce que, du point de vue politique, est-ce que Frédéric Bastien a plus ou moins raison là, de dire que... je vais le dire dans mes mots. Supposons que ce programme-là est effectivement tout à fait indépendant, ce dont on n'a pas de raison de douter, vous et moi. Se peut-il que ce soit néanmoins un petit programme qui roule, hein, comme un truc qu'on programme, qu'on met dans l'ordinateur, puis qui fait le travail à notre place? Autrement dit, ben, ça fait l'affaire. Tant mieux, ça tombe bien, parce qu'on ne savait pas trop comment contester la loi 21. Bon. Et puis là, hop, on montre à travers ça des gages à ceux qui voudraient que le gouvernement fédéral intervienne. Vous voyez ce que je veux dire un peu, même si finalement ça n'a pas marché. Là.
Alors, on va faire des petites leçons d'histoire et de culture générale là, pour nos amis. Ouais, c'est pas vraiment compliqué. Le programme est né dans les années 70 du père Trudeau qui disait en démocratie, dans une société de droit comme la nôtre, il est important de permettre aux groupes minoritaires de pouvoir faire valoir leurs droits. Or, celles-ci, bien souvent, malheureusement, ceux-ci, en fait, les groupes en question,
manque de financement
suffisant. Alors, voici. Et son propre cabinet criait au meurtre en disant mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur le premier ministre? On va quand même pas leur donner du fric pour qu'ils contestent nos propres lois, nos propres décisions. Et Trudeau dit ben, vivre dans un état de droit, c'est ça. Boum. Et là, quand le Stephen Harper avait retiré ce programme-là, il y avait plusieurs bloquistes qui criaient au meurtre aussi. Pourquoi? Parce que cet argent-là, imaginez donc, avait été drôlement utile pour la lutte dans celle qui avait trait avec l'hôpital Beaufort.
Montfort, oui, pardon. Les hôpitaux plus, francophones et autres causes de ça.
L'arrêt Beaulac en Cour suprême qui défendait aussi le droit des francophones au Québec, et il y en a eu plusieurs autres. Il y a eu certaines causes aussi en rapport au LGBTQ et ainsi de suite. C'est à ça que sert ce programme. Là, de la manière que j'entends parler les Blanchet, Bastien, Jolin Barrette et Legault, c'est Justin Trudeau qui, de manière purement machiavélique, a allongé un chèque de 250 000 à une espèce d'organisme considéré comme un paravent pour refiler ce fric-là à une commission d'anglais, imaginez-vous donc, pour contester une loi votée par une majorité de Québécois, puis c'est donc modéré, puis on l'aime donc, Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie prise d'eux? Contester les droits des mineurs... Contester...
Oui, mais là, mais c'est très clair.
Écoutez ça, c'est à ça que ça sert, le fond, faire valoir le droit des minorités. Alors que si votre argument, c'est de me dire la majorité l'aime, mais j'en ai rien à cirer, c'est justement pour ça qu'existe ce fond-là, pour défendre le droit des minorités. Contre qui? Ben, habituellement, c'est contre la majorité, sinon t'es pas une minorité. Il me semble que c'est pas du génie nucléaire à comprendre.
Mais là, je vais vous empêcher de vous dépomper en revenant sur Yves-François Blanchet, qui tenait un argument, à mon point de vue, en disant, un argument là, qui, en soi, là, indépendamment du reste de son propos, a peut-être une valeur, je sais pas, j'espère encore vous l'entendre dire, on sait jamais. C'est-à-dire que la commission scolaire en question, avec son budget de 350 millions, 300 millions, je sais plus combien, a-t-elle vraiment besoin de 125 000 piastres de ce programme-là? Là, il y a un autre bug, là, non?
OK, c'est ça le meilleur argument de Blanchet, là?
Ben, je sais pas, je vous le demande.
Besoin de cet argent-là?
Dites-moi que c'est son meilleur.
Ben, je sais pas, moi, je les connais pas tous. À un moment donné, j'arrête. Après 3-4 conneries dans la même journée, ça me va, là, ça suffit. Là, son seul argument, c'est de dire, ouais, ben, ils ont assez d'argent de même, ils ont pas besoin de ça. Bon, ben, OK, c'est correct. Ils ont peut-être pas besoin. La preuve, ils l'ont pas pris. Okay? OK. Est-ce qu'on peut maintenant revenir au fond de l'accusation, qui est celle de critiquer un fonds qui prévoit des sous de manière relativement minimaliste, par ailleurs, pour défendre les droits des minorités. Et là, votre argument, c'est de dire, ah ben oui, mais là, il conteste une loi qu'une majorité québécoise veut.
Oui, c'était ça le principe. Bon, il n'y a rien à faire avec vous, on ne vous fera pas changer d'idée.
Non, pas là-dessus, non, trouvez d'autres choses.
Sauf peut-être au moyen d'un baillon, tiens. Parlez-moi donc
avec
du...
Avec un baillon, il y a n'importe quel imbécile pour réussir ses fins. Hein?
Alors, Frédéric Bérard, le gouvernement caquiste vient de rentrer dans un club select. Enfin, il est rentré il y a quelques mois déjà dans ce club de ceux qui déchirent leur chemise contre le baillon quand ils sont dans l'opposition et qui s'empressent de l'utiliser lorsqu'ils sont aux affaires. Est-ce qu'on crie au loup pour rien avec ça? Est-ce que c'est une comédie politicienne ou est-ce qu'il y a de vraies raisons? Essayez de nous convaincre qu'il fallait vraiment s'insurger contre le baillon cette fois-ci, parce que nous qui suivons ça de loin, des fois on se dit, bon, ben c'est le jeu habituel. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, ben, tout à fait. Ben, en fait, c'est un classique de crier au meurtre quand il y a un baillon, quand on est dans l'opposition.
Je parle pour nos auditeurs, là, je parle d'utilisation du baillon, bien sûr, pour faire passer la réforme de l'éducation du ministre Roberge, qui a donc été adoptée dans la nuit de vendredi à samedi, au terme de cette procédure exceptionnelle qui permet de faire adopter un projet de loi à toute vapeur, là, en coupant court au débat là, à l'Assemblée nationale, essentiellement. Poursuivez, excusez-moi.
Oui, non, c'est ça. Ben, en fait, c'est de bonne aloi quand on est dans l'opposition de crier au meurtre à toutes les fois que le baillon est employé. Il faut relativiser. Ceci dit, ça fait quand même, c'est la quatrième reprise, hein, si je ne me trompe pas, que le gouvernement Legault emploie le baillon. Il est seulement au pouvoir depuis 18 mois. Et moi, je vous dirais que ça dépend, Nick, du type d'enjeu qui est devant nous. Quand c'est une question qui est fondamentale, comme celle de la loi 21, où on emploie la disposition dérogatoire pour amender la Charte québécoise, comme on l'a fait en juin. C'est la première fois que ça se fait, un amendement à la Charte québécoise sans consensus. Et là, on le fait en plus sous baillon, la fin de semaine, à 4 heures du matin, pendant que le petit Simon s'en va faire son jogging. Je trouve ça d'un mépris assez épouvantable. Quand on parle de commission scolaire, ben là, c'est prise d'eux, parce que les commissions scolaires, ou en fait l'esprit des commissions scolaires est aussi protégé par la Constitution depuis 1867. Et là, à plus forte raison, on est au début de la session parlementaire. Il n'y a pas de feu dans la grange. Pourquoi on prend le temps d'en discuter plus amplement? Donc, moi, je vous dirais que c'est surtout ça qui m'achale. Le reste, bon, il y a des sujets qui, franchement, sont quand même de moindre importance, disons-le. Et pour le reste, parfois, ça peut presser, peut y avoir une urgence. Et là, je peux comprendre. Mais dans les deux cas que je viens de vous soulever, honnêtement, là, je pense que ça prendrait ça aurait pris quand même plus de considération pour les partis d'opposition qui, par ailleurs, ne l'oublions pas, ont comme mandat souvent de poser des questions embêtantes au ministre, de dire « Mais pourquoi sur cet article de votre projet de loi, il se passe X et plutôt pas Y? Est-ce qu'on devrait pas écouter tel autre expert? » et ainsi de suite. Et ça, si on écoutait davantage, ça éviterait peut-être de faire comme le gouvernement caquiste fait depuis le début, c'est-à-dire aller à l'avant comme je te pousse, vite, 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 parce que c'est notre promesse électorale, adopter la loi, puis là, réaliser après ça qu'on s'est pété la gueule et essayer de recommencer deux semaines plus tard en disant « excusez-moi, pardon ». Et après ça, le Legault nous dit « ben, vous savez, les Québécois comprennent qu'on peut faire des erreurs ». Oui, je comprends, mais si vous faites des erreurs systématiquement, ben, il y a deux raisons à ça. Soit vous êtes incompétent ou vous allez trop vite. Donc, j'aime mieux vous donner la présomption du fait que vous n'êtes pas incompétent, mais vous allez trop vite. Mais là, appliquez-vous, puis prenez le temps de le faire et écoutez les experts en question.
Ou vous êtes un peu arrogant parce que vous sentez les sondages de votre côté. Et bon, on connaît la chanson. Frédéric Bérard, ouais, chroniqueur au journal Métro, toujours enflammé, toujours clair. Merci d'avoir été avec nous. Retournez dans votre snowmobile.
Claire, je ne laissais pas m'enflammer pour faire fondre la neige autour de moi, puis il m'en manque encore pas mal.
Oh, lance-flamme. Allez-y. Bonne chance.
Salut.
Salut, à une prochaine. Vous, William Corbatny, qu'est-ce que vous en pensez d'abord de cette histoire de Bayon, là, puisqu'on était là-dessus? Philippe Couillard, votre ancien chef, on a fait usage aussi, je pense, trois ou quatre reprises.
Trois fois pendant quatre ans, je pense. Mm-hmm. C'est ce que Martine Biron a dit.
Et là, tout le monde déchirait sa chemise, hein,
c'est
quand
ça.
Même.
Trois baillons dans quatre ans. Et en plus, j'aimerais juste citer l'affaire, en fait, lors de la discussion, ou bien de la discussion sur le projet de loi 59, sur le discours haineux. Et là... Le gouvernement...
À l'époque du gouvernement libéral.
Exact. Oui. Alors, et le gouvernement avait la majorité. Et là, Mme Maltais et Mme Nathalie Roy, les deux, ils ne voulaient pas inclure... ils ne voulaient pas, en fait... ils voulaient limiter le discours uniquement au discours religieux. Alors que... Et même Mme Maltais est allée pour dire que je fais de l'obstruction intelligente et même ça va prendre trois ans, je veux continuer à juste poser des amendements et des amendements. Et là, Stéphanie Vallée, la ministre de la Justice à l'époque, est-ce qu'elle pouvait imposer son baillon? Absolument. Mais ce qu'elle a dit, c'est que moi, la Charte des droits et libertés, ça a été adopté par consensus, à l'unanimité, et je ne modifierai pas par une majorité ou par un baillon. Alors là, ça dit grandement, là, c'est quoi le respect et la compréhension, c'est quoi une démocratie. Et cette utilisation sur les baillons, là, à quatre fois dans huit mois, dans neuf mois, c'est ça ce qui est insultant pour moi, et non pas un organisme indépendant qui donne de l'argent à ceux qui, bon, je ne parle pas de la commission English Morning nécessairement, mais un programme qui aide les minorités.
Mais vous savez que s'il y avait un caquiste assis avec nous ici ce matin, il nous rappellerait que les gouvernements qui font usage du baillon ont toujours de bonnes raisons de le faire. Il nous dirait, ben voyons donc, voyez bien que les gens d'opposition étirent le temps pour rien, font des manœuvres, veulent faire capoter le projet sans bonne raison. Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, bien sûr, je vois que...
Est-ce qu'il n'existe pas peut-être au moins un certain nombre de raisons de cet ordre-là cette fois-ci.
Mais le baillon, là, écoute...
Le ministre Robert, je disais, ça va durer 1000 heures.
1000 heures, mais qu'elle dure 1000 heures, là. Ils sont payés pour ça. En plus, si on va au site web de l'Assemblée nationale, on voit que le baillon, c'est une exception. C'est une exception pour couper le débat.
C'est une procédure exceptionnelle.
Et même, ils l'ont qualifié comme la guillotine. Ça, sur le site web de l'Assemblée nationale. Et là, j'ai un article que je suis en train d'écrire là-dessus spécifiquement. Alors, maintenant, avec la CAQ, ils ont fait de ce procédure exceptionnelle la norme maintenant. En plus, mais encore une fois, c'est toujours, que ce soit pour la loi 21 ou la loi sur l'immigration ou la loi 34, où on a aboli carrément, on a suspendu en fait le pouvoir de la régie de l'énergie, qui est un contre-pouvoir aussi à Hydro-Québec. Et là, avec la loi aussi 40, qu'on a à dernière minute ajouté des pouvoirs supernaturels au ministre concernant la cession des terrains vacants pour certaines
municipalités. On va en parler dans un instant.
Alors,
oui.
Voilà.
Mais parlons-en justement avec Steve Fortin, chroniqueur au Journal de Montréal.
Il va t'expliquer plus maintenant, Steve.
Ben, je sais qu'il est en feu, lui aussi, sur ces questions-là. On apprenait ça ce matin, Steve Fortin. Donc, un amendement passé en douce, selon Véronique Yvon du Parti québécois, qui permet au gouvernement de réclamer des bâtiments gratuitement aux municipalités. De quoi s'agit-il exactement? Puis pourquoi ça vous fait bondir comme ça? Mais enfin, on voit un peu pourquoi, mais dites-nous de quoi il s'agit d'abord. Et bonjour.
Ben, de ce que j'en comprends, là, c'est que cet amendement-là est arrivé par après. C'est comme si, de la façon que je le comprends, là, c'est comme si à un moment donné, dans le cadre de l'étude de ce projet de loi-là, au fur et à mesure qu'on se rendait compte des incohérences ou même de ce qu'il y avait là, à colmater dans ce projet de loi-là, ben, on déposait des amendements successifs. Puis là, ben, dans ce cas-ci précisément, donc on s'est rendu compte, ben oui, mais là, on va faire quoi pour les bâtiments? Donc, on ajoute un amendement comme ça après la période d'étude, et puis on dit voilà, les municipalités vont être obligées de rétrocéder des bâtiments et tout ça. Puis j'ai trouvé que Véronique Yvon, entre autres, parce qu'elle n'est pas seule, mais quand même dans l'opposition, j'ai trouvé son intervention très pertinente quand elle a demandé à l'Union des municipalités du Québec, ben êtes-vous au courant de ça? La moindre des choses quand même aurait été peut-être de consulter l'Union des municipalités du Québec, car ce sont finalement les municipalités qui vont avoir à assumer ça. Toute l'étude de ça, puis j'en ai parlé avec des gens de tous les partis politiques, dont des gens qui sont des sympathisants de la CAQ, puis certains étaient très mal à l'aise de devoir parler de ce projet de loi-là puis de la façon dont il a été conduit. Et d'ailleurs, je veux rappeler, et permettez-moi, là, parce qu'il faut le faire absolument, selon moi, Tommy Chouinard dans la presse, suite au baillon, justement, là, on en parlait, je pense à M. Corbatti qui en parlait il y a quelques secondes, là, suite au baillon en immigration puis par rapport à la laïcité, il disait, pourtant, il a écrit, là, en juin dernier, pourtant, dans l'opposition, François Legault a réclamé de limiter le recours au baillon. Dans un document adopté en novembre 2015, la CAQ a fait valoir qu'en court-circuitant la procédure parlementaire normale, le gouvernement coupe court au débat nécessaire pour améliorer un projet de loi. Mais savez-vous quoi? C'est exactement ça que le projet de loi 40 c'est ça qu'on aurait dû faire avec le projet de loi 40, parce qu'il méritait vraiment plus d'études que les 50 petites heures qu'on lui a données avant de couper court au débat. Surtout qu'on a mis 240 heures à étudier le projet de loi sur le cannabis, puis entre vous et moi, là, ça aurait mérité là, pas mal plus de temps pour qu'on évite cette espèce de cirque-là, parce que c'est un cirque, et franchement, on se moque du parlementarisme en ce moment, on se moque des institutions, puis le premier ministre est allé jusqu'à se moquer des députés qui voulaient justement, qui réclamaient ce que lui-même réclamait dans l'opposition. Fait qu'à un moment donné, là, je veux dire, il y a un cynisme là-dedans, on ajoute au cynisme, là, et ça va tellement loin, Nick, là, que je vois des gens qui m'écrivent, parce que là, j'écris quelques textes, justement, pour critiquer, mais en même temps aussi, j'ai laissé la parole à des gens qui sont dans le système et des gens même qui sont en dehors du système et qui demandaient juste un peu plus de réflexion.
Alors, dans votre texte là, que vous intitulez la réforme Barrette de l'éducation, oui, pour rappeler un peu les façons de faire de l'ancien ministre Barrette, donc le ministre qui concentre entre les mains du ministre de l'éducation, dans ce cas-ci, beaucoup de pouvoir et qui, bien sûr, bulldoze, si on veut.
Mais est rendu qu'on... Moi, j'ai des gens, là, sérieusement, là, qui sont... J'ai vu un employé de la CAQ, il faut le faire, qui en appelle à, ben, savez-vous quoi, on va en faire plus de baillons. Puis là, il y a des militants qui disent, vous êtes pas on n'est pas habitué hein, de voir quelqu'un qui gouverne pour la majorité, ben, go les baillons, puis travaillons comme ça. Puis là, je me dis, mais où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ben, je vous le donne en mille, dans quelques minutes, le Journal de Montréal va mettre en ligne mon prochain texte, puis ça s'appelle, le titre, c'est 24,4%, puis il y a des maudites limites à parler de la majorité quand on a finalement récolté 24,4% du vote des électeurs inscrits, 37,4% de ceux qui ont voté. Là, à un moment donné, là, il y a un déficit de représentation et je veux bien, là, mais il va falloir qu'on se penche là-dessus parce que ce qui est en train de se passer actuellement à l'Assemblée nationale, c'est qu'au nom d'une très, très vague assertion de majorité, ben ce gouvernement-là est en train de prêcher par arrogance et puis je crois là, qu'il est temps qu'on fasse pause un peu puis qu'on regarde un peu ce qui est en train de se passer là.
Mais c'est vrai, Steve Fortin, qu'on peut servir l'argument du déficit de représentativité à presque tous les gouvernements dans notre système.
Oui.
Bon, et forcément, là, ils sont très, très rarement, aujourd'hui, encore moins élus avec plus de 50% des voix. C'est le moins qu'on... On est loin de ça, là, désormais, avec plusieurs partis en lice et tout. Est-ce que, quand on parle parle de représentativité chez les caquistes, est-ce qu'on ne se fie pas aussi? On sait que la CAQ est très bonne dans les études de marché, dans les coups de sonde. On prétend à la CAQ qu'on connaît les volontés de l'électorat très bien. C'est vrai que on peut noter que sur la loi 21, par exemple, ils ne se sont pas trop trompés là-dessus, les caquistes. N'est-il pas vrai que de nombreux Québécois trouvent que les commissions scolaires, c'est de la bureaucratie, les élections scolaires, c'était une perte de temps et d'argent parce que finalement, c'est toujours les mêmes qui se présentent et les mêmes qui votent, c'est-à-dire une petite minorité. Bon, vous voyez un peu le portrait. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même quelque chose, une demande là-dessus, une volonté dans la population de changer ces choses-là?
Dans le premier des deux textes que j'ai publié là-dessus, beaucoup de gens m'ont écrit pour me demander de préciser ce que je voulais dire par différence de représentativité entre commissions scolaires francophones et anglophones, parce que des gens ont sursauté. Premièrement, il faut dire là, la majorité des gens ne connaissent absolument rien des commissions scolaires, et là, il y a des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est ça, là, il va y avoir encore des élections scolaires pour les commissions scolaires anglophones. Là, on me répondait, oui, mais eux, ils votent plus. Attendons, là. La liste électorale d'une commission scolaire anglophone, si on veut y figurer, il faut faire l'effort d'aller s'y inscrire. Donc, quelqu'un qui va s'inscrire sur la liste électorale est pas mal plus prédisposé à aller voter que si, par exemple, dans le cas des commissions scolaires francophones, tout le monde y est d'office. Donc, si on veut parler du taux de participation, il faudrait au moins qu'on ait l'honnêteté, puis le ministre n'en a jamais parlé, il faudrait qu'on ait l'honnêteté de dire, ben c'est pas pareil, pas en tout. Puis, si on disait aux gens, bon, ben si, dans les commissions scolaires francophones, on va calculer le taux de participation en fonction de ceux qui vont s'inscrire, ben, on aurait un taux de participation à peu près équivalent à ce qui se passe dans les commissions scolaires anglophones. Ça, parce qu'il fallait le dire.
Oui, puis ce qu'il faut dire, là, pour ceux qui n'auraient pas suivi le dossier, les anglophones ont fait pression et ont obtenu de conserver les commissions, leurs commissions scolaires. Donc, dans leur cas, les choses ne changent pas de ce côté-là, tandis que chez la majorité, ce sont désormais des centres de services.
Oui, mais je pense que, attention, là, je pense que ça va quand même s'appeler des centres de services pour nos compatriotes.
Alors, c'est-à-dire qu'on conserve quoi? Les élections scolaires, hein? C'est
oui,
ça qui ne change pas dans leur cas?
Oui, on conserve, si on veut, la représentativité démocratique. Mm-hmm. Et là où vraiment, là, je trouve là, qu'on est complètement à côté nos pompes, là, c'est qu'on ne comprenait pas exactement le rôle que... Tu sais, c'est difficile, puis peut-être que les commissions scolaires puis les commissaires scolaires ont peiné ont failli à bien expliquer que ce qu'ils faisaient exactement, mais là, les centres de services, en gros, là, c'est sûr que les directions d'école se sont rangées avec le gouvernement, ils gagnent au change, ils gagnent du pouvoir au change, mais en gros, là, on va pas changer grand-chose, puis j'ai parlé avec différents présidents, présidentes de commissions scolaires qui m'expliquaient exactement pourquoi cette espèce de volonté de sauver 45 millions par année, ça va être annihilé par différentes mesures. Juste de changer la papeterie, les enseignes, puis de procéder au changement de si on veut, de commission scolaire vers des centres de services, là, juste ces appels d'offres-là, on va brûler le 45 millions. Et c'est ça qui est le plus drôle là-dedans, c'est qu'il y avait comme une espèce de velléité idéologique, la même que j'ai dénoncée d'ailleurs dans cette espèce de volonté absolue de vouloir mousser toujours les maternelles 4 ans au détriment des CPE. Et puis là, on voit que ce gouvernement-là fonce vraiment par idéologie, par précepte idéologique, et j'aurais voulu qu'on prenne encore une fois peut-être un pas de recul, puis qu'on essaie de comprendre, bon ben, expliquons exactement ce qui se passe, est-ce qu'il n'y avait pas moyen peut-être d'améliorer les choses, quitte à peut-être changer la représentation démocratique, pourquoi ne pas l'amalgamer aux élections municipales? Ben, non, on n'a pas voulu ça. C'était, on fonce le plus rapidement possible, puis on en finit, puis let's go le baillon. Ben, ça commence à être difficile, là, parce que immigration, laïcité, éducation, c'est pas des petites choses qu'on passe à la trappe du baillon, là.
En 30 secondes, même pas, en terminant, Steve Fortin, aux États-Unis, on ne finit jamais de dire que, en provenance surtout des milieux de gauche, de centre, même de centre-droit, que Donald Trump vient de franchir la ligne, ça y est, ce sera la fin de sa popularité ou sa lune de miel, ça n'arrive jamais. Est-ce qu'ici, toute proportion gardée et toute comparaison étant un peu boiteuse par ailleurs, est-ce que la CAQ va finir par égratigner peut-être avec cette loi 40 le vernis qui semble assez solide de son côté? Les sondages se suivent et se ressemblent. M. Legault est extrêmement populaire, son gouvernement aussi.
Je dirais simplement ceci. En 2015, quand Justin Trudeau s'est trouvé seul sur la patinoire parlementaire, pendant des mois, voire même plus d'une année, le temps que ses adversaires se refassent, il était lui aussi seul et il trônait à la tête des sondages. François Legault jouit exactement du même climat politique, mais tout ça va changer à un moment donné. Et là, il y a comme une espèce de d'arrogance là, qui se manifeste. Et moi, je peux te dire une chose. Quand le député de Beauce-Sud, en commission parlementaire, député caquiste, M. Poulin, a déclaré « Oui, j'ai les enseignants sur mon bord, on est capable de leur parler, tout ça. » Il y a une pétition qui a été lancée en l'espace de quelques jours. On avait 16 000 personnes qui signaient pour dire « Attention, beaucoup d'enseignants là-dedans qui disaient « C'est pas vrai, parlez pas en notre nom. » Fait qu'il faut faire attention avec ça, le projet de loi 40, c'est déjà une grosse scratch, comme on dit, là, sur le record, sur le 45 tours. Ça va rester, ça.
Très bien. J'aime cette référence au vinyle. En oui. Terminant, merci beaucoup, Steve Fortin. On se reprend très bientôt, bien. J'espère. Allez, pelleté.
OK, salut bien.
Salut. William Corbatly, revenons à la question de la commission scolaire English Montreal. Je pense qu'on a fait le tour du baillon, sauf peut-être pour vous demander une chose. Le milieu de l'éducation, on dit qu'il est difficile à diriger, qu'il peut être réfractaire au changement ou assez corporatiste. Est-ce qu'il y a quand même du bon dans le projet de loi, dans la loi désormais, mammouth qui a été adoptée, la loi du ministre Roberge? Est-ce qu'il y avait quand même des choses à changer dans
ce domaine? Je peux te dire, je ne sais pas, parce que juste 10% de ces articles ont été débattus. Alors, on n'est même pas arrivé à vraiment débattre dans le fond. Même le ministre lui-même a déposé plusieurs amendements en commission parlementaire et de suspendre et de suspendre et de suspendre. Maintenant, pour le milieu d'éducation, est-ce qu'il est...
Oui, c'est ça, au-delà de la loi elle-même.
Oui.
Là.
Est-ce que le milieu d'éducation est ouvert à des changements? Mais c'est sûr, il est ouvert à des changements. Écoute, quand j'étais à la commission politique au PLQ, on rédigeait pas mal de suggestions et c'était suite à des à un moment donné peut-être on a rencontré Monsieur Égide Royer pour qu'il nous explique exactement ça c'est quoi comment bien approcher certaines idées et il faut consulter ce monde-là. On n'est jamais d'arriver comme ça. Ah, moi je pense de cette façon, moi je pense de cette façon. Jamais. Est-ce que les commissions scolaires, on a des problèmes dans les commissions scolaires? Oui, mais c'est un problème de gouvernance et non pas de pertinence. Alors, c'est là où on devait, en fait, faire le débat et non pas juste d'une façon cavalière, abolir les commissions scolaires. Même je dirais, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas un constitutionnaliste, par exemple, mais quand on fait, on a discriminé les centres de services francophones via les anglophones parce qu'on a aboli les élections d'ici et on a gardé les élections ici. Alors, déjà, c'est une discrimination de la majorité et non pas de la minorité.
Mais ça montrerait qu'il y a une forme d'écoute quand même. On a accédé aux demandes du milieu anglophone en maintenant le système électoral.
Oui, mais par crainte de ne pas aller devant les tribunaux, là, surtout que ce n'est pas couvert par la clause dérogatoire. Alors, c'est l'article 23 de la Charte canadienne qui édicte tout ça, en fait. Alors, c'est pour cette raison que Steve, je pense, a dit tout ce qu'il faut dire. Là, il faut juste aller sur sa page Facebook aussi pour voir comment des gens qui, à plusieurs reprises, l'ont félicité pour beaucoup de chroniques concernant la loi 21, par exemple. Mais là, c'est le traître national. Steve Fortin, par exemple, parce qu'il a juste osé de critiquer la CAQ. Alors.
Ah, ben voilà. En terminant, en deux mots, faisons le pont, toujours dans le milieu scolaire d'une certaine façon, la commission scolaire English Montreal, oui. Devait-elle renoncer à ses sommes? Est-ce que, au moins sur cet élément-là, il y avait un problème, là. Est-ce que, selon vous...
Bon, après que ce que Frédéric Bégard a dit, là, le problème juridique, bon, là, la commission scolaire, la commission English Montreal a une personnalité juridique. Elle peut rester en justice, elle peut acheter elle peut être propriétaire de pas mal de choses. Alors, elle a quand même une personnalité morale.
Elle est sous tutelle actuellement, hein, il faut bien le dire.
Oui,
aussi.
Là, elle est sous tutelle, mais en général, elle a la personnalité morale. Maintenant, concernant avoir de fonds directement du fédéral, ça, je ne sais pas, mais comme le programme à l'Université d'Ottawa, ce n'est pas un programme fédéral, c'est un programme complètement indépendant, je pense qu'elle a tout le pouvoir de le faire.
Financé par le fédéral. Hein, c'est ça l'argument.
Tout est financé par un certain gouvernement, finalement. Là. Alors, ce n'est pas vrai que là, Justin Trudeau doit intervenir ou quelque chose comme ça.
Dans un moment, nous discutons avec Pierre Moutère de la rectitude politique et du rapport de la gauche avec ce phénomène important à notre époque dans un instant. Alors, il est sociologue, c'est également un spécialiste de l'étude des mouvements sociaux en Amérique latine. Il mène parallèlement à cela une réflexion philosophique sur le rôle de la gauche au 21e siècle, mais il connaît très bien, je crois, en tout cas, c'est ce que j'ai compris à la lecture de son livre, l'histoire de la gauche et son rôle au siècle précédent. Je parle de Pierre Moutère, il est aussi membre et ou militant de Québec solidaire, n'est-ce pas? Bonjour, Monsieur Moutère, d'abord.
Oui, bonjour. Oui, c'est exact.
Merci d'être avec nous ce matin. En fait, ce midi, je devrais dire, je suis encore le matin, j'ai pelleté trop longtemps. Dites-moi, je parle un peu de votre ouvrage, là. Vous vous attardez donc au phénomène de la rectitude politique. Ce qui est inusité ou ce qui est particulier à vous, c'est de le faire à partir d'une perspective, à partir même des rangs de la gauche, parce qu'on sait que c'est souvent la gauche qui est accusée d'être un peu le fer de lance ou le joueur étoile de la rectitude politique, si j'ose dire. Vous commencez d'ailleurs votre livre en rappelant que, en martelant le fait que c'est une certaine droite qui aime bien brandir l'accusation de rectitude politique pour marquer des points faciles à l'encontre de la gauche, un peu comme si vous vouliez donner des gages aux gens de gauche qui vous lisent et qui pourraient être un peu indisposés par la critique que vous amenez ensuite, parce que tout de même, par la suite, vous dites donc que la gauche est un peu perdue depuis quoi? Peut-être la chute du mur de Berlin et que en perte de repère, tout comme, dites-vous, la société dans son ensemble, elle se réfugie dans la morale, dans une course aux apparences qui fait un peu l'impasse sur le traitement du fond des problèmes. Alors, à travers la rectitude politique, on veut montrer patte blanche, mais on oublie un peu le vrai combat. Est-ce que je résume bien ce que vous dites d'abord?
Pas mal, non, c'est bien. En fait, c'est parti, ma réflexion, elle est partie d'un malaise que je ressentais, avec notamment au sein de Québec solidaire, et avec certains camarades, amis, avec lesquels je militais dans différentes causes sociales. Tout d'un coup, de plus me sentir tout à fait en syntonie avec eux, en accord avec eux, parce que, justement, il y avait une espèce de ton d'indignation morale qui finissait par s'imposer et qui nous empêchait de vraiment penser les choses de manière politique, parce que quand on fait de la politique, on essaye de faire de la politique, on ne raisonne pas exactement de manière morale. Quand on fait de la morale, on se demande que dois-je faire en termes individuels. Quand on fait de la politique, on se demande qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour changer les choses. Et dans la tradition de gauche qui est la mienne, qui est la nôtre, eh bien, il y a toute une série de façons de faire qui nous permettent d'arriver à cet objectif de changer les choses réellement, et en particulier de rechercher l'unité, de trouver des causes communes de manière à pouvoir faire avancer cet objectif qui est le nôtre à gauche, qui est celui de l'égalité sociale et de l'avancement des droits collectifs, parce que c'est grâce à ces droits collectifs qu'on a pu faire avancer au fil du temps cet idéal de l'égalité. Et pas d'une égalité chimérique, hein, mais d'une égalité réelle qui peut se vivre à travers les lois, à travers la vie quotidienne, à travers les conditions d'existence matérielle de tous les gens qui forment une société donnée.
Alors justement, vous dites qu'en individualisant les choses, la rectitude politique sert en quelque sorte l'ordre néolibéral, si l'on veut, en amenuisant le collectif, en enlevant dans ce cas-ci à la gauche, les moyens d'agir collectivement pour changer les choses. Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus?
Oui, ben, en fait, il y a une espèce de pli qui s'est pris. C'est d'ailleurs une nouvelle manière de voir les choses. Celui qui en est le représentant le plus symptomatique, c'est Justin Trudeau, là, au Canada, chez nous. Hein? Parce que, au fond, qu'est-ce que fait la rectitude politique ou qu'est-ce qu'on fait à travers la rectitude politique? On met en scène, on met en spectacle des prétentions à faire quelque chose, mais qu'on ne réalise pas véritablement. Et donc, quelque sorte, il y a une espèce de double discours, une espèce d'hypocrisie. Par exemple, on va dire qu'on demande pardon aux autochtones, ou on va dire que, ben oui, on va féminiser le langage pour montrer qu'on aspire à une égalité entre les hommes et les femmes. Mais tout ceci est de l'ordre du discours, de l'ordre des apparences, de l'ordre du cliché, si je peux dire, public. Mais dans les faits, très souvent, ces prétentions qu'on a, on ne les met pas en place. Et Justin Trudeau, on ne les applique pas. Et Justin Trudeau le représente bien, lui qui est pour, mettons, qui se vante d'être sensible aux questions écologiques, par exemple, avec son pipeline Trans Mountain, on voit bien comment il, d'un côté, il affirme des choses au niveau du discours, au niveau de la langue politique, d'une sorte de langue de bois qui devient d'ailleurs insupportable pour beaucoup de gens parce que tout le monde le ressent, ça, qu'en fait, dans la politique, on dit des choses, on met en spectacle un discours qui ne correspond pas à la réalité et aux aspirations, aux formidables aspirations de changement que les gens ont, ressentent en eux et ne voient pas se réaliser. C'est pour ça d'ailleurs que la classe politique est aujourd'hui si délégitimée, y compris souvent ses représentants de gauche, parce qu'en fait, on est pris dans cette logique des apparences et cette logique qui fait que on ne prend pas les moyens pour... on sermonne le monde, si vous voulez, mais on ne prend pas les moyens pour le changer. Et quant à gauche, pour changer le monde, qu'est-ce qu'on doit faire? Se mettre ensemble, se réunir, trouver un espèce de discours commun qui rassemble tous ces groupes différents sociaux qui aspirent à changer les choses réellement et qui n'y arrivent pas véritablement. La gauche, en fait, elle est à la défensive aujourd'hui. Elle n'a plus le haut du pavé. C'est pas pour rien que Mathieu Bock-Côté peut parler dans toutes les tribunes parce qu'il représente un petit peu. Son discours est hégémonique. Alors que dans le passé, notamment les années 70 jusqu'aux années 80, c'était plutôt la gauche dont le discours était hégémonique et qui était repris, qui était accepté. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et c'est ce qui explique en grande partie les difficultés qu'a aujourd'hui la gauche à faire reconnaître pourtant ces aspirations qui sont extrêmement légitimes, ces aspirations à vouloir qu'il y ait plus d'égalité dans une société, alors qu'on est dans une société néolibérale qui fondamentalement accélère, amplifie, accroît les inégalités. En ce sens-là, Le fait d'être de gauche aujourd'hui reste vraiment d'actualité, une nécessité, et une nécessité donc de lutter contre les discours de la droite qui, eux, ne cherchent absolument pas à remettre en cause les fondements de l'inégalité qui se trouvent en particulier dans le système néolibéral. Mathieu Bock-Côté ne parle pas de ça.
Je vous arrête un instant, Pierre Moutarde, parce que c'est drôle, justement, Mathieu Bock-Côté sera au téléphone juste après vous.
Oui,
vous voyez, quand vous dites qu'il parle à la parade se poursuit ici.
Oui.
J'entendais, jusqu'à ce que vous commenciez à parler de lui, un certain nombre, tout de même, de points de convergence entre votre discours et le sien, du moins, en tout cas, en ce qui a trait à Justin Trudeau, par exemple, et à sa façon d'incarner parfaitement la rectitude politique. Mais là où vous vous distinguez, sans doute, outre la critique que vous lui faites, et sans doute aussi sur le fait que la droite bock-côtiste ou bock-côtienne aurait le haut du pavé aujourd'hui, il ne sera sans doute pas d'accord avec ça. Il reste que vous dites, vous, que la rectitude politique n'émane pas de la gauche, mais plutôt d'un malaise social et politique, j'allais dire, d'une sorte de dégradation du politique. C'est vos mots, je crois.
Oui, tout à fait.
Qu'elle fédère large de l'extrême gauche jusqu'au centre droit, la rectitude politique.
Tout à fait.
C'est ce que vous dites, mais je ne suis pas certain d'avoir tout à fait saisi votre démonstration là-dessus, parce qu'en même temps, vous dites tout de même, vous faites quand même l'examen de la gauche là, dans votre livre. Vous expliquez qu'elle s'est un peu perdue, qu'elle se cherche un projet d'une certaine façon.
Voilà, parce qu'elle est, depuis les années 80, la chute du mur de Berlin, elle est en crise, hein, elle est en panne d'alternative politique. Toutes ces,
mais est-ce
ces
que c'est pas parce qu'elle a, est-ce que justement à travers cette crise-là, n'a-t-elle pas justement nourri d'une certaine façon le néolibéralisme qui, d'après vous, est aujourd'hui aux origines de la rectitude politique d'une certaine façon? Est-ce que c'est pas la faute de la gauche plus que ce que vous voulez bien le dire dans votre ouvrage?
La faute, je ne sais pas si le mot est juste, mais
oui, j'y vais simplement,
elle est partie prenante de ça, au sens où elle n'a pas été capable de faire face aux défis posés là par le monde d'aujourd'hui, un certain nombre de défis politiques, et donc elle a laissé, si je puis dire, le beau jeu à ses adversaires de prendre le devant, et donc elle n'a pas su trouver les stratégies pour y faire face, et c'est à cela qu'il faut
quand je disais la faute, c'est là que je voulais en venir, je voulais dire qu'elle a plus que laisser ses adversaires prendre le haut du pavé, elle a participé, on pense bien sûr au gouvernement Mitterrand par exemple en France,
qui dans ce sens-là, oui,
en 83 prend le pari de la gestion du système plutôt que de le changer.
Tout à fait, dans ce sens-là, oui, au moins la gauche institutionnelle, vous avez tout à fait raison, a participé à ça, et c'est justement pour ça que cette gauche institutionnelle se retrouve très souvent dans la rectitude politique ou dans le discours de la rectitude politique, parce que la rectitude politique, au fond, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de mettre en avant des bonnes intentions, des intentions louables, mais sans véritablement changer le système, donc elle maintient un certain statu quo qui est tout à fait, je dirais, adéquat aux visées de la gauche institutionnelle là, dont vous parliez tout à l'heure. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que la rectitude politique, elle permet de rassembler beaucoup d'intérêts divergents. L'extrême gauche radicale, entre autres, qui est très indignée de toute une série de choses et qui au moins va se satisfaire du fait qu'on change par exemple le nom d'une rue ou qu'on fasse des déclarations de culpabilité vis-à-vis des autochtones. Elle a l'impression ainsi que ça fait avancer sa cause, donc voyez-vous, de ce côté-là, vous avez... Puis ça permet, après, donc à beaucoup de gens qui sont déçus des transformations sociales, de dire, ben, au moins, on fait quelque chose au niveau des apparences. C'est vrai qu'on n'avance pas beaucoup, mais au moins, on fait quelque chose au niveau des mots qu'on utilise, du vocabulaire, etc., des symboles, hein, pensez à la rue Atatakène, par exemple, plutôt que
Amherst.
Du général Amherst, etc., voyez-vous. Mais je dis pas que c'est pas bon de faire ces choses-là, mais si on en reste là, on change rien, et donc on maintient, on perpétue, on aide à ce que se perpétue un espèce de statu quo, et parce qu'au fond, les questions de fond touchant à l'inégalité sociale aujourd'hui ne sont pas véritablement interrogées comme telles. Et donc ça permet, vous voyez, un peu depuis le centre droit jusqu'à l'extrême gauche, de se retrouver dans un espèce de statu quo qui donne l'impression qu'on fait quelque chose sans faire véritablement quelque chose. C'est pour ça, je pense, qu'elle a tant de force, cette rectitude politique, mais elle n'est pas uniquement le fait de la gauche. Et puis pourquoi elle embarrasse par exemple Mathieu côté cette rectitude politique? C'est parce que d'habitude c'est la droite qui donne des leçons de morale.
Pas seulement lui, hein, quand même.
Et c'est pour la première fois qu'elle se trouve avec un espèce de rival, de concurrent, qui lui fait aussi des leçons de morale à partir de valeurs qui ne sont pas les siennes, parce que la droite, c'est plutôt des valeurs conservatrices. Alors, c'est ça qui embarrasse Mathieu Bock-Côté, je pense. Et parce qu'on ne peut pas dire que la droite a été... Enfin, c'est caractérisé par la défense radicale des libertés jusqu'à présent. Au contraire, c'est même étrange qu'elle se présente comme la championne aujourd'hui des libertés individuelles. Vous voyez, c'est tout à fait... Enfin, et des libertés en général.
C'est peut-être parce que la gauche lui offre cette opportunité sur un plateau d'argent.
Exactement.
Vous êtes en train
de dire dans mon livre.
Vous êtes en fin d'entrevue, vous êtes en train de vous racheter auprès de la gauche, Pierre Moutarde, si j'ose dire, mais parce qu'il reste que, en terminant là-dessus, vous savez que vous tenez un discours pour une certaine gauche, en tout cas, subversif ou interdit ou inacceptable en la critiquant sur le terrain de la rectitude politique, et que vous êtes en cela l'incarnation d'une espèce de fracture générationnelle qu'il y a dans la gauche, non? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à régler, là aussi, cette gauche qui déporte... vous parlez de Normand Baillargeon dans votre livre aussi, hein? C'est quelqu'un qui est vu comme étant de droite désormais par un bon nombre de militants de gauche, c'est assez stupéfiant de l'entendre dire comme ça, mais c'est pourtant ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là à régler aussi?
Tout à fait. Moi, je pense que la gauche, dans toutes ses tendances confondues, doit prendre le temps de discuter, de débattre, d'échanger et d'éviter d'en finir avec cette fracture, effectivement, entre la vieille génération et les nouvelles générations. Moi, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des nouvelles générations, de leur façon de lutter, des nouvelles formes de lutte, ça, indéniablement. Mais les nouvelles générations ne peuvent pas non plus faire l'impasse sur le passé, sur l'histoire du passé, sur toutes les luttes sociales et politiques du passé, y compris au Québec. Et donc, il y a comme quelque chose... quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Et ce que je reproche, moi, aux jeunes, à certains secteurs des jeunes générations, notamment à Québec solidaire, ce n'est pas d'avoir les idées qu'ils ont, mais c'est qu'on ne peut pas les discuter, ces idées-là, parce qu'elles sont présentées de manière tellement sacrée, tellement indiscutable, que si jamais vous les questionnez d'une manière ou d'une autre, on vous voue aux gémonies, c'est-à-dire on vous considère comme, je ne sais pas, vous devenez tout d'un coup raciste, machiste, voyez-vous.
J'ai peur que ça vous arrive, Pierre Moutarde, mais...
C'est ça qui n'a pas d'allure, parce que ça n'appartient pas aux traditions de la gauche. Les traditions de la gauche, c'est toujours celle du débat, de la démocratie. La gauche, elle croit à la démocratie. La démocratie, c'est toujours une pensée plurielle, c'est toujours un espace où on cherche, grâce à la raison, grâce à tous les savoirs dont on dispose de type rationnel, on cherche à avancer dans la meilleure direction qui soit. Alors si on interdit le débat, l'échange, le dialogue, c'est terrible. Et juste la dépolitisation, et notamment la dépolitisation qu'on connaît à l'heure actuelle au sein de Québec solidaire, c'est justement le fruit de ça, d'être incapable de se donner les moyens de discuter en profondeur de sujets.
Pierre Moutarde, on en parlera plus longuement quand vous passerez à Montréal. Venez faire un tour au studio, il y aurait tellement à dire là-dessus. On pourrait faire une émission complète sans l'ombre d'un doute.
Avec plaisir.
Voir une série. En attendant, on vous lit, ça s'appelle « Les impasses de la rectitude politique ». C'est publié chez... j'allais dire éco-société, est-ce que c'est
non,
ça, pardon?
Non, c'est chez Varia.
Chez Varia, voilà.
Nota bene Varia.
Merci beaucoup, Pierre Moutarde, au plaisir.
Eh bien, à bientôt.
Et à une prochaine.
Merci pour cette entrevue.
Alors oui, nous poursuivons dans quelques secondes avec Mathieu Bock-Côté, l'omniprésent. De retour pour la conclusion de Société, non sans discuter d'abord avec Mathieu Bock-Côté qui est avec nous. Bonjour Mathieu Bock-Côté.
Bonjour.
Merci d'être au bout du fil. Vous avez lu, je crois, alors d'abord vous êtes sociologue, chroniqueur, on vous connaît bien. Vous avez écrit vous aussi sur la rectitude politique, ça s'appelle « L'Empire du politiquement correct ». Vous avez fort probablement lu, je sais que vous avez lu en fait « Les impasses de la rectitude politique » de Pierre Moutarde. On comprend que sa thèse, c'est de dire que la rectitude politique n'émane non pas de la gauche et de la bien-pensance qui l'accompagne, mais du néolibéralisme qui serait le fautif dans ce cas-ci, pour le dire très, très, très simplement. Là. Et il faut dire que assez courageusement, M. Moutarde évoque les exemples de Bertrand Cantat, de... j'oublie les autres exemples. Oui, c'est ça, Claude Jutras, exactement, pour montrer qu'il y a aussi des mouvements fiévreux de rectitude politique auxquels participent, alors là, il nomme Richard Martineau, des gens comme ça, des chroniqueurs plus conservateurs ou de droite. Est-ce que ça suffit à vous convaincre que la rectitude politique n'est pas un problème d'abord qui origine de la gauche?
Alors, en tout respect, je vous avouerai que j'ai trouvé que c'est un livre assez faible, pour ne pas dire très faible. C'est-à-dire, la définition qu'il nous propose de la rectitude politique est une définition minimaliste qui remonte aux premières observations sur la chose, lorsqu'on disait finalement que la gauche, renonçant à agir sur les structures sociales, se réfugie dans la modification du langage. Ça, je dirais que tous les observateurs...
Mais vous êtes assez d'accord là-dessus? Oui.
Oui, mais c'est une définition tellement minimaliste que cette définition-là, disons-la comme ça, tous les observateurs conservateurs, entre guillemets, qui sont intéressés à la rectitude politique depuis le début des années 90 l'ont déjà dit 100 fois, 1000 fois. Et premièrement. Deuxièmement, je trouve que c'est un ouvrage qui cherche, qui multiplie en fait les pirouettes théoriques pour chercher à nous dire que finalement, la rive-sud politique qui trouve son ancrage, qu'on le veuille ou non, dans les mutations du progressisme, qui, dont on peut faire l'histoire à partir des campus américains dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, qui caractérise le progressisme contemporain. Un des principaux soucis de l'auteur, c'est d'abord de nous dire que la droite est méchante, très méchante et vraiment très méchante, et il est tout étonné de s'imaginer qu'il puisse aussi y avoir d'une certaine manière un problème avec cette force de bien lumineuse qui est la gauche. Alors, quand c'est le point de départ, quand les premières pages de l'ouvrage d'ailleurs sont occupées de nous dire à quel point la droite justement est vilaine, eh bien on se dit, et ensuite l'auteur se donne, je crois, une forme de sentiment de supériorité théorique parce qu'il multiplie les considérations entendues, pour ne pas dire usées, sur le capitalisme et le néolibéralisme, qui serait essentiellement à l'origine de tout. Eh bien, on se retrouve devant un ouvrage assez faible, qui, oui, je l'imagine, dans les milieux qui se veulent de gauche, peut choquer un peu, c'est-à-dire, voilà quelqu'un qui, dans la famille, remet en question quelques-unes des évidences du moment, et par exemple, il fait quelques observations sur la question de l'identité trans, qui peuvent très certainement choquer aujourd'hui dans une certaine gauche, mais il n'en demeure pas moins que pour ceux qui n'ont pas comme souci premier de marquer leur appartenance à la gauche à la manière d'une identité religieuse, rien de tout cela n'est véritablement surprenant. Donc probablement que pour ceux qui sont dans cette famille de pensée, il y a peut-être une forme de petite avancée intellectuelle dans l'ouvrage. Pour ceux qui ne se sentent pas obligés de donner des gages de respectabilité progressiste à tous les jours, on savait cela depuis longtemps.
On vous a pas appelé pour ça, en tout cas pour que vous donniez des gages de respectabilité aux progressistes, mais Mathieu Bocoté, mais ça vous a pas un peu ébranlé, vous, ce recours à Jutras, Cantat, on aurait pu dire Matzneff tant qu'à y être aussi, c'est cette espèce de fièvre, de mouvement où on veut sortir le méchant de l'espace public. Vous avez dénoncé, vous, le déboulonnage des statues, là, par exemple.
Alors voilà, c'est particulier. C'est-à-dire là, il y a ces deux chapitres qui sont où on cherche à, l'auteur cherche à Moutarde, cherche à appliquer en fait sa thèse, et il s'éloigne un peu de sa thèse en quelque sorte, parce que là il prend des cas concrets, puis il voit comment fonctionne dans des situations très particulières ce qu'il appelle la rectitude politique. Je dis pas qu'il n'y a pas d'observation pertinente dans l'ouvrage, qu'on ne se trompe pas. Je dis que comme explication globale, c'est-à-dire, je reviens aux premières pages de l'ouvrage parce qu'elles sont importantes, il nous dit longtemps, j'ai cru que cette question ne valait pas la peine qu'on s'y intéresse, que c'était un machin de droite, et là, on est obligé de s'y pencher. Mais je m'excuse, mais il arrive tardivement sur le champ de bataille, c'est-à-dire que la réflexion sur ces questions-là est avancée depuis longtemps. Il la reprend, je le redis, sur un mode assez minimaliste, c'est-à-dire une réflexion sur le langage comme lieu de combat compensatoire lorsqu'on renonce à agir sur les structures sociales. C'est la vieille thèse comme quoi le socialisme, en ayant échoué à transformer le capitalisme, à l'abolir, eh bien on se replie ensuite sur l'univers symbolique, alors que c'est autrement plus complexe. Le politiquement correct, le réactif politique, comme je l'entends, je l'ai souvent dit, pour moi, ça pose la question du régime, ça pose la question de la délimitation de l'espace, de légitimité de l'espace politique, ça pose la question de la définition même des acteurs autoritaires dans l'espace public.
Ce que vous appelez le régime diversitaire, mais Moutarde vous rejoint un peu là-dessus aussi, hein, il en parle de ça.
Très partiellement et maladroitement, devrais-je dire, parce que le principal souci de Moutarde dans son ouvrage, c'est de faire en sorte que le libéralisme, le néolibéralisme, comme il dit, soit coupable. Bon, alors, vous savez, c'est toute la différence, je dirais, entre quelqu'un qui veut à tout prix rester à gauche et quelqu'un qui est indifférent aux étiquettes de gauche et de droite. C'est-à-dire, quand l'homme qui veut à tout prix rester à gauche sent d'abord le souci de nous montrer à quel point c'est quand même la droite qui est coupable en dernière instance. Bon. Mais ça me fait penser, vous savez, un peu au nouveau philosophe. Vous connaissez ce mouvement d'intellectuels français qui, à la fin des années 70, découvre le totalitarisme à travers une lecture, par ailleurs, un peu incomplète de Solzhenitsyn, et qui nous dit, on vient de découvrir le totalitarisme, donc là, il faut qu'on s'en préoccupe. On était tout à fait en droit de le répondre, mais on était au courant depuis 1917, vous savez. Hein. On était au courant depuis les années 20, on était au courant depuis les années 30, on était au courant depuis les années 50, mais il semble qu'une certaine manière, une certaine gauche n'accepte pas, doit se rendre compte par elle-même de certains problèmes pour oser les nommer. Et lorsqu'elle constate d'une certaine manière que les auteurs qu'elle dit réactionnaires avaient tout vu ça depuis bien longtemps et avaient poussé depuis bien longtemps l'enquête théorique, intellectuelle, empirique à propos de ça, eh bien là, ils se pincent un peu le nez parce que, comme le disait Kessler, Arthur Kessler, un intellectuel de gauche déteste fondamentalement se découvrir comme allié malgré lui, un intellectuel réactionnaire qui pensait déjà ce qu'il en vient à penser.
Alors, Mathieu Bocoté, on ne nous aura pas convaincu aujourd'hui que la rectitude politique ne vient pas de la gauche, mais je dois vous laisser parce que l'émission nous laisse, c'est la fin.
D'accord. Mais quoi, là, c'est un ouvrage message intéressant pour ceux qui sont dans ce camp, mais qui nous apprend peu de choses finalement, hélas.
Bon, alors, merci. Merci, Mathieu Bocoté. On court se le procurer quand même. William Corbatly, en quelques mots, ça vous inspire quelque chose?
Oui, rapidement. Je pense que le problème de la rectitude politique, que ce soit droite et gauche, c'est que les deux partis agissent comme des donneurs de leçons, alors qu'il fallait nuancer le débat public et l'opinion publique.
Il fallait discuter. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Daniel Fortin, à la mise en onde. Chers auditeurs, à lundi prochain. Merci.